VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Un père et ses 5 enfants ont été tués par les rebelles d'origine ougandaise ADF, contre laquelle l'armée congolaise affirme mener des offensives d'envergure dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 15 jours. Des responsables locaux ont indiqué que le massacre est l'œuvre des ADF à la faveur d'une incursion à Oicha, territoire de Béni, dans le nord Kivu. Jeudi aux environs de 21h, l'armée congolaise a confirmé le bilan de 6 membres d'une même famille tués. Au total, quelques 25 civils ont été tués dans des attaques attribuées aux forces démocratiques alliées depuis l'annonce du lancement des opérations militaires le 30 octobre. Au Cameroun, la haine publique et la stigmatisation socio-ethnique prennent des proportions inquiétantes. C'est un constat fait par le gouvernement et la société civile qui dénoncent de telles dérives très visibles dans le champ politique et dans les médias, nous dit à Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jelinta.
Il y a eu des messages de haine qui sont passés par le canal des organes de presse.
Les propos sont du porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, qui a présenté lors du dernier conseil de cabinet une communication sur la montée des discours de haine sur les médias.
Ma communication visait justement à voir comment faire en sorte que la presse prenne conscience de la nécessité pour elle de travailler à la promotion de la confiance nationale.
Selon des observateurs, c'est depuis la tenue de la dernière élection présidentielle en 2018 que la haine, le tribalisme et la stigmatisation ethnique se sont invités dans les débats publics. Un point de vue que partage Ernesto Yené, acteur de la société civile au sein de l'initiative citoyenne.
C'est même la politique qui se sert de la montée de la haine. Lorsqu'on veut déjà conserver ou acquérir le pouvoir, on a toujours une tendance, je dis, facile à s'appuyer sur le village ou sur le groupe ou sur la tribalité. Nous savons par expérience que c'est un piège malsain dans lequel il ne faudrait pas que la population camerounaise tombe.
Sur le champ politique, les actes haineux sont les plus recensés. En raison de leur appartenance à certaines formations politiques, certains Camerounais sont voués aux hégémonies. Un militant du MRC a été pris à partie le mois dernier dans la région du Sud. Sam Séverin Ango revient sur cette mésaventure.
Il s'agit des gens qui estiment que nous sommes ressortissants de la région du Sud et nous avons choisi de militer pour un parti qui est présidé par des ressortissants bamileke. Donc on nous a traité de traîtres et je trouve que c'est lamentable aujourd'hui, en plein 21e siècle, qu'on puisse encore avoir de tels agissements.
Le parti au pouvoir, le RDPC, tient à se démarquer de cette forte tendance au tribalisme politique. Le parti diffuse abondamment ces derniers temps des messages du vivre ensemble. Roger Nkododang est député RDPC dans la région du centre.
Nous sommes Camerounais à partir du moment où nous appartenons au territoire camerounais et nous devons tous nous aimer, accepter de vivre ensemble les uns et les autres, sans distinction de langue ou de d'ethnie.
Mais la société civile camerounaise pense que les bonnes intentions politiques seules ne suffisent pas pour faire taire les démons de la haine et du tribalisme. Initiative citoyenne a lancé une campagne de conception des messages contre le tribalisme et la haine au Cameroun. Ernesto Yené, acteur de la société civile.
Le but de cette campagne, c'est de collecter déjà ces messages qui vont être diffusés. Il y aura une session de formation avec des journalistes, avec des blogueurs, des lanceurs d'alerte qui sont généralement des personnes qui sont les mieux indiquées dans les réseaux sociaux pour canaliser ou délivrer l'engagement. Il y aura aussi une campagne de sensibilisation avec affichage dans les transports publics.
Le Cameroun va organiser un double scrutin en février prochain pour l'élection des députés et conseillers municipaux. Certains Camerounais redoutent que le tribalisme et la haine gagnent en intensité durant cette période. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Un jeune Guinéen a été tué par balle lors de heures survenues hier à Conakry après la dispersion par les policiers et les gendarmes d'une nouvelle manifestation de masse des opposants au président Alpha Condé. Alpha Souleymane Diallo, 19 ans, est au moins le 18e civil à trouver la mort depuis le début, le 14 octobre, d'une mobilisation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Un gendarme a également été tué. Les incidents de jeudi sont survenus au lendemain de la publication d'un rapport accusateur d'Amnesty International indiquant que tous les voyants sont au rouge pour les droits humains à l'approche de la présidentielle. Au Niger, Mahamadou, principal opposant au président Mamadou Issoufou, est de retour à Niamey après un exil de 3 ans à la suite du décès fin octobre de sa mère Bakassi Koura.
Mahamadou a regagné Niamey hier. Il s'est rendu directement au cimetière de Yantala pour se recueillir sur la tombe de sa mère. À son retour d'un premier exil, le 14 novembre 2015, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait été arrêté dès sa descente d'avion d'avion, puis emprisonné dans une affaire de trafic international de bébés qu'il a toujours qualifié de cabale politique. Amadou, âgé de 69 ans, également ex-premier ministre, est arrivé deuxième à la présidentielle de 2016 sans pouvoir faire campagne. Après le premier tour, il avait été évacué d'urgence de sa cellule de prison pour des soins médicaux en France. Il a été désigné candidat à la présidentielle par son parti, le Mouvement démocratique nigérien, mais risque de se voir écarté du scrutin pour avoir été condamné à un an de prison. Mais fin octobre, pouvoir et opposition ont annoncé vouloir entamer un dialogue en vue d'apaiser un climat politique tendu à un an de la présidentielle en décembre 2020.
Le Kenya et la Somalie, opposés depuis de longs mois par un différend portant sur la démarcation de leurs frontières maritimes, ont convenu de normaliser leurs relations et de recommencer à délivrer des visas aux citoyens de l'autre pays. Cet accord a été annoncé dans la soirée jeudi par la présidence kenyane après une rencontre à Nairobi entre le président Uhuru Kenyatta et son homologue somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed. Les deux dirigeants ont réaffirmé la valeur inestimable des relations existantes, le Kenya et la Somalie, et se sont mis d'accord pour explorer les voies qui permettraient de renforcer leurs liens bilatéraux et diplomatiques, selon un communiqué de la présidence kenyane. La compagnie aérienne South African Airways a annulé plus de 200 vols aujourd'hui en raison d'une grève du personnel navigant et technique qui réclame des augmentations de salaire et dénonce des suppressions d'emplois. Les vols annulés touchent des liaisons intérieures et internationales prévues pour ce vendredi et demain samedi. La compagnie aérienne a proposé aux passagers dont les vols sont annulés de s'enregistrer sur d'autres vols ou auprès des compagnies aériennes affiliées. Selon les syndicats, plus de 3000 des 5000 employés de la compagnie personnel au sol et en cabine participent à la grève. Les députés algériens ont adopté jeudi, selon la télévision nationale, un projet de loi controversé visant à assouplir et simplifier le régime juridique et fiscal du secteur des hydrocarbures dont se sont détournés les investisseurs étrangers. Depuis son adoption en Conseil des ministres le 14 octobre, le texte a suscité une virulente opposition en Algérie, car accusé de brader la richesse nationale aux multinationales dans un contexte de contestation populaire massive du régime depuis 9 mois. Et les États-Unis et les Européens ont étalé jeudi leur division sur le sort des djihadistes étrangers détenus en Syrie lors d'une réunion au cours de laquelle Washington a tenté de rassurer ses alliés ébranlés par les volte-face successives de Donald Trump. Mais les participants se sont quittés sur un constat de désaccord. La demande américaine se heurte au refus de nombreux pays, dont la France, de reprendre leurs ressortissants qui ont combattu dans les rangs djihadistes pour ne pas heurter une opinion publique échaudée par les attentats des dernières années en Europe. La France, notamment, tente de négocier avec Bagdad pour que la justice irakienne puisse s'en charger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, un adolescent a ouvert le feu jeudi, jour de ses 16 ans, dans l'enceinte d'un collège-lycée de Californie, tuant une fille de 16 ans et un garçon de 14 ans, avant de se tirer lui-même une balle dans la tête, ont annoncé les autorités locales. Le suspect, lui-même élève de la Saugus High School à Santa Clarita, a survécu, mais se trouve dans un état grave. 3 autres adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été blessés. Le président, du moins la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a affirmé jeudi que Donald Trump avait déjà reconnu des actes de corruption dans l'affaire ukrainienne au cœur de l'enquête pour destitution impeachment visant le président américain William Taylor, ancien ambassadeur en Ukraine, qui est désormais chargé d'affaires à Kiev, et George Kent, secrétaire d'État adjoint chargé des affaires européennes et eurasiennes, ont été entendus mercredi. Une haute figure centrale de cette affaire, Marie Yovanovitch, qui a été limogée en mai dernier de son poste d'ambassadrice en Ukraine, sera entendue ce vendredi. Et la nouvelle présidente bolivienne par intérim, Jeanine Añez, a annoncé que son gouvernement avait renoué le dialogue de jeudi avec le parti d'Evo Morales, mais a rejeté toute candidature de l'ex-chef d'État démissionnaire en exil au Mexique. Madame Agnès tente de pacifier le pays secoué par 4 semaines de manifestations et violences post-électorales qui ont fait 10 morts et quelques 400 blessés. Jean-Roger Billon, merci de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.